Comme vous l'avez sans doute compris, cette table ronde qui s'intitule Modernisation et réforme, qu'en attendre, se situe dans la droite ligne de la table ronde précédente. Celle-ci répondait principalement à la question que faire pour augmenter notre potentiel de croissance, quelle réforme décider. Là, je pense que vous avez eu des réponses qui étaient assez claires, que plusieurs d'entre vous ont apparemment jugé plutôt consensuel, mais grosso modo qui tournait autour du triptyque, plus de travail, plus de flexibilité, plus d'éducation de savoir et de recherche. Alors, cette table ronde, celle-ci, a pour ambition de répondre, elle, à la question qui est peut-être encore plus difficile de qu'est-ce qu'il faut faire, puisque vous avez vu que les réponses étaient assez évidentes, c'est plutôt comment faire ce qu'on doit faire. Je vous rappelle que Margaret Thatcher, quand elle était arrivée au pouvoir, avait dit « Ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà, dites-moi plutôt comment faire ». Donc c'est sur l'art délicat de la réforme que nous allons nous pencher maintenant, parce que c'est bien beau de savoir ce qu'il faut faire, mais si on n'arrive pas à le mettre en place, eh bien ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autour de cette table, plusieurs des intervenants qui ont déjà participé à la première table ronde. Hein. Philippe Bouilloux, dont je rappelle qu'il est directeur des politiques économiques au ministère de l'économie et des finances. Gilles Berset, qui est directeur des analyses macroéconomiques et des prévisions à la Banque de France. Et puis, trois nouveaux intervenants. Bertrand Collomb, qui est le président d'honneur de la Farge et aussi administrateur de la dite entreprise. Gabi Bonan, de la CFDT. Cette fois-ci, les syndicats ne sont pas tous, les syndicalistes ne sont pas tous malades. Et nous aurons la chance donc d'avoir la contradiction portée dans cette table ronde. Vous êtes secrétaire national de la CFDT. Et puis Jacques Delplat, qui est économiste au CAE, qui a été membre de la commission Attali. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez que son franc-parler risque de décoiffer. Et donc, c'est lui qui conclura cette table ronde. Je vais d'abord commencer par donner la parole à Philippe Bouilloux. Donc, Philippe Bouilloux, vous avez bien planté avec les autres intervenants dans la première table ronde un petit peu les objectifs, quelles étaient les réformes à faire. Moi, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez maintenant, c'est un petit peu, d'abord, que vous nous justifiez plutôt la méthode des réformes. Donc, manifestement, le gouvernement Fillon et Nicolas Sarkozy ont choisi, par exemple, d'attaquer plusieurs chantiers de réformes en même temps, ce qui n'avait pas été le cas, par exemple, du gouvernement Raffarin, qui, lui, pensait qu'il fallait faire les réformes les unes après les autres. Alors, est-ce que c'est plus efficace d'ouvrir tous les chantiers de réformes en même temps? Et puis, vous nous direz quand même comment on fait pour à la fois prendre des mesures qui apaisent la crise dans laquelle on est et comment faire pour que ces mesures ne contredisent pas trop les réformes qui sont nécessaires à moyen long terme. Et vous avez 10 minutes maximum pour ça.
Merci. Je vais essayer de répondre aux deux questions posées. D'une part, en voyant dans quelle mesure la stratégie... vous me dites si vous m'entendez ou pas? Bon. Donc, je vais essayer de faire deux... C'est mieux, hein? Donc je vais essayer de faire deux choses. D'une part, d'essayer de revenir sur la stratégie gouvernementale de réforme pour voir dans quelle mesure elle s'accorde bien avec la grille d'analyse de la croissance et de la croissance potentielle qui a été développée dans la séance précédente. Et une deuxième chose, un deuxième point auquel vous m'invitez à réfléchir, qui est que devient cette stratégie dans la situation de crise que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure la salle s'est renouvelée par rapport à la première session. Pour les personnes qui viennent d'arriver et au risque de faire un tout petit peu de redite pour celles qui seraient déjà là, de manière très très succincte, des éléments sur les leviers de croissance tels qu'ils ressortaient de la séance précédente. Dans mon propos, je les avais résumés d'une manière, ces leviers de croissance, je les avais présentés d'une manière un peu schématique, mais que je trouve assez utile et efficace. Premièrement, et c'est ce qui doit jouer à court-moyen terme, il faut mobiliser le facteur travail, il faut augmenter la quantité de travail dans l'économie. Deuxièmement, il faut que les facteurs de production dans l'économie soit utilisée de manière plus efficace à travers des réformes qui peuvent porter sur le marché du travail, mais qui doivent aussi porter sur le marché des biens et des services, avec un accroissement de la concurrence. Et troisièmement, il faut s'engager dans la préparation de la croissance de demain, les dépenses d'avenir, pour faire court, mais essentiellement de manière un peu ciblée, les dépenses portant sur la recherche et l'enseignement supérieur. Ce sont, je disais que c'était les trois leviers qu'il s'agissait d'actionner pour favoriser la croissance potentielle. Et j'avais ajouté dans mon propos qu'il existait des complémentarités entre ces différents leviers, notamment entre réformes sur les marchés de biens et services et réformes sur le marché du travail. Ces complémentarités que les économistes peuvent justifier au plan théorique, je pense qu'elles existent aussi en termes de faisabilité politique. C'est-à-dire qu'il y a une question évidente d'acceptabilité pour les réformes. On peut sans doute plaider que les réformes, dont on sait qu'elles peuvent faire peur, et parfois à juste titre, il y a des perdants dans certaines réformes, les réformes sont peut-être plus acceptables politiquement, socialement, quand elles portent sur les différents chantiers simultanément. C'est-à-dire, mettre plus de flexibilité sur le travail, c'est une chose, c'est peut-être plus acceptable si dans le même temps on sait que la concurrence est accrue sur le marché des produits et des services. Une autre raison pour laquelle les réformes sont complémentaires et pour laquelle il faut essayer d'actionner simultanément les différents leviers, c'est que ces réformes ne jouent pas avec le même horizon temporel. Les réformes sur les marchés, biens, services et travail, jouent à court terme et à moyen terme. Quand on est sur un horizon un peu plus long, ces réformes continuent de jouer, mais c'est l'horizon plus lointain, c'est celui dans lequel vont jouer l'investissement que vous faites dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Donc il faut d'autant plus commencer les différents chantiers en même temps que tous ne peuvent pas jouer très vite. Et il ne faut donc pas repousser en particulier, repousser indéfiniment, a fortiori, les réformes qui ont des effets au bout d'un certain nombre d'années. Alors, cette grille est simple. Mobiliser le travail, réformer les marchés, investir dans l'avenir. C'est une grille de lecture commode. Est-ce que la stratégie qui est menée depuis un an et demi peut s'inscrire dans cette démarche simple? Jacques Delplat, qui posait une question tout à l'heure, avait l'air d'être sceptique. Je vais essayer. Je ne sais pas quelle serait votre réaction spontanée si c'était vous qui avez le micro et pas moi. Est-ce que vous diriez, mais c'est bien sûr, ou est-ce qu'au contraire, vous seriez extrêmement sceptique? Je pense que cette cohérence est respectée et je vous indique comment un certain nombre de réformes un peu emblématiques et que vous connaissez certainement essaient de jouer sur les différents leviers. Premier levier, le travail. Bon, vous connaissez le slogan, hein, travailler plus pour gagner plus. Je ne reviendrai pas sur l'aspect politique et je ne voudrais pas être au niveau du slogan. Mais dans cette catégorie-là, vous pouvez placer, vous en pensez ce que vous voulez ensuite, mais dans cette catégorie-là, vous pouvez placer, un certain nombre de mesures, à commencer par la mesure de libéralisation des heures supplémentaires, mais également la réforme du contrat de travail, dont Philippe Aguillon a dit qu'elle n'était pas allée assez loin. L'absence de coup de pouce sur le SMIC, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est dans cette catégorie-là, et c'est avec un objectif de mobilisation du travail. L'absence de coup de pouce sur le SMIC, donc, la réforme des 35 heures, et sur un registre un petit peu différent, la mise en place du revenu de solidarité active. Toutes ces mesures-là visent à actionner le même levier qui est la mobilisation du facteur travail. Ensuite, il y a les réformes sur les marchés de biens et de services. On a parlé tout à l'heure de la commission Attali. Vous savez qu'un certain nombre de mesures ont été retenues ou sont encore en étude. Mais il y a eu un acte législatif à travers la loi de modernisation de l'économie qui a apporté un certain nombre de réformes concernant des simplifications sur l'avis des entreprises, concernant la réduction des délais de paiement, concernant le lissage des effets de seuil, et concernant, c'était l'exemple sur lequel je m'appuyais tout à l'heure, la réforme dans la grande distribution. Donc là, on est sur le deuxième levier que j'avais évoqué. Tout ne figure pas, en particulier tout ce qui était dans le rapport Attali. Tout n'a pas été fait, je pense que Jacques Delplat aura l'occasion de nous le rappeler, concernant par exemple la réforme des professions réglementées. Mais vous avez un certain nombre de mesures qui s'inscrivent clairement dans cette logique-là. Troisième levier, concernant les dépenses en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur, vous avez la réforme des universités, de leur gouvernance, vous avez le plan campus, vous avez, pour ce qui est de la recherche privée, la réforme et l'accroissement très significatif du crédit impôt recherche. Donc voilà des mesures qui s'inscrivent sur ce qui essaient de jouer sur ce troisième levier. Alors il y a un point que l'on n'a pas abordé peut-être explicitement, mais qui a toute sa place quand on parle de croissance potentielle et de croissance dans la durée. Hein, il y a un sujet qui est la croissance soutenable. Et la croissance soutenable, c'est ce qui peut être fait face au changement climatique. Et vous savez que sur ce sujet-là, il y a les grands chantiers du Grenelle de l'environnement. En même temps, puisque j'ai parlé de soutenabilité, il y a un autre point qui a été abordé je pense, par différents intervenants, c'est la question du coût et la question des moyens dont on dispose pour engager ces réformes et ces investissements. C'est pourquoi nous avons un vrai grand sujet de soutenabilité des finances publiques, et dans la stratégie du gouvernement, au-delà des trois rubriques que j'avais indiquées, il y avait depuis mai 2007 le sujet soutenabilité des finances publiques, ce qui passe par la maîtrise de la dépense. Vous avez certainement entendu parler de l'objectif de stabilité en volume des dépenses de l'État. Vous avez sans doute entendu parler aussi de la revue générale des politiques publiques. Eh bien, cela vise à maintenir, à stabiliser la dépense et par là à renforcer la soutenabilité de nos finances publiques. J'ajoute qu'une réforme comme la réforme des retraites, que ce soit celle de 2003, que ce soit ce qui a été fait dans une certaine mesure l'an dernier, ou que ce soit à l'occasion du rendez-vous 2010, Quand on fait une réforme sur les retraites, on vise à la fois à améliorer la soutenabilité des finances publiques dans la durée et on vise aussi à renforcer le potentiel de croissance. Donc voilà, schématiquement, ma présentation est schématique, mais on avait prétendu, entre économistes, donner une grille de lecture. J'essaie de vous indiquer comment, dans cette grille de lecture, s'inscrit ce qui a été mis en place. J'avais prévu un troisième point, mais je le développerai. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps de parole. Alors, si je peux, quelques mots sur l'actualité. Ça, c'était la stratégie telle qu'elle était mise en place à froid, quand la perspective de la crise n'existait pas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, quand on est confronté à une crise, ou même quand on est confronté à une récession, ne parlons pas de la crise financière, de la crise historique à laquelle nous sommes confrontés, quand on est confronté à une récession, que faut-il faire ? Alors, si on écoute les économistes, il y a un certain nombre de travaux académiques qui sont assez intéressants au plan intellectuel, mais vous en pensez ensuite ce que vous souhaitez. Il y a eu des travaux, notamment par Robert Lucas, qui expliquait que le gain que procuraient les efforts des gouvernements pour lisser les fluctuations de l'activité était très faible par rapport au gain que l'on pouvait attendre de réformes qui visent la croissance potentielle. Donc la recommandation était de ne dépenser pas trop et trop d'énergie à des réformes de stabilisation. On pourrait préciser, la position n'est pas tout à fait aussi caricaturale que je l'exprime ici, mais il faut faire vite. Vous avez aussi, bien entendu, la référence connue de tous les économistes à Schumpeter avec la destruction créatrice. Si on le dit de manière un peu plus brutale, c'est il y a des purges qui sont parfois assez souhaitables, et à l'occasion d'une récession, des entreprises qui étaient peu productives vont disparaître, et c'est comme ça que l'on progresse ensuite. Bon, il va sans dire que ces réflexions d'économistes ne sont pas le premier réflexe des gouvernements, quel que soit le pays, quand ils sont confrontés à une situation de crise. De même que des travaux qui sont des références internationales reconnues au plan empirique, comme les travaux de l'OCDE, ne sont pas non plus le premier réflexe des gouvernements. Les études empiriques de l'OCDE, en termes d'économie politique de la réforme, ont consisté à examiner sur les pays industrialisés au cours de quelques décennies les cas où il y avait eu des réformes de grande ampleur qui étaient menées et menées avec un certain succès. Et ils ont regardé quels étaient les facteurs qui prévalaient au moment où ces réformes qui ont réussi ont été lancées. Et c'était assez désespérant, enfin c'est ce que l'on pensait il y a quelque temps, c'était assez désespérant parce que bien souvent, un des ingrédients, enfin, ce qui augmente, quand on le regarde avec un œil un peu historique, ce qui augmente la probabilité de mener une réforme, c'est de s'être trouvé d'abord en situation de crise. Et les rapports de l'OCDE disaient, typiquement, quand on regarde dans le rétroviseur, le pays qui a fait de belles réformes, c'est le pays qui s'était retrouvé avec un déficit d'activité de 4%. Eh bien, on n'en est pas loin. Est-ce que ça veut dire que les grandes réformes sont devant nous? Je n'en suis pas tout à fait aussi certain, mais c'était quand même quelques mots sur ce que disent des travaux académiques ou des travaux empiriques face à la crise. La pratique des gouvernements, face à une situation de récession, et surtout quand il y a le risque que ce soit une récession grave, et quand on a le sentiment d'être un peu face à l'inconnu, le réflexe des gouvernements, c'est bien entendu de rechercher d'abord la stabilisation. Soit parce que les gouvernements sont short-termistes, c'est une vision négative, soit parce qu'ils sont très soucieux du bien-être de leurs concitoyens, c'est une vision plus optimiste, soit parce que ce sont des économistes et qu'ils craignent des effets durables d'une récession, même si cette récession est temporaire. On parle d'hystérèse, on en parle à propos du chômage, on peut aussi en parler, puisque notre préoccupation ici c'est la croissance potentielle, à travers le fait que des entreprises qui seraient amenées à disparaître ou des projets qui seraient amenés à être abandonnés pour cause d'une récession temporaire sont des projets qui potentiellement étaient porteurs de croissance potentielle. Quelle que soit la raison, le fait est là, les gouvernements essayent de lisser les fluctuations économiques, c'est ce qui a été fait depuis le début de la crise. J'aurais voulu le développer beaucoup plus, je le ferai très volontiers si vous me posez des questions. Je ne vais pas le faire.
J'aimerais qu'on laisse beaucoup de temps pour les questions parce que j'ai senti une certaine frustration à la fin de la première table ronde.
Exactement.
Sur le manque de temps pour les questions.
Je ne développe pas, je donne juste trois titres, trois rubriques. Qu'est-ce qui a été fait? Un, maintenir l'offre, à travers notamment les mesures dans le secteur financier. Deux, procéder avec des mesures qui respectaient les trois T qui faisaient consensus au plan international, timely, temporary, targeted, des mesures qui arrivent à temps, qui sont temporaires et qui sont ciblées. C'est ce qui a été fait, on peut en discuter si vous le souhaitez, et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut faire plus à travers la politique budgétaire? Est-ce qu'il faut faire plus de manière keynésienne? Est-ce qu'il faut un plan de relance? Si vous lisez les journaux, vous voyez que c'était à la une de pas mal de journaux ce matin. Est-ce qu'il faut un plan de relance? Est-ce qu'il faut plus d'investissement?
Réponse dans quelques minutes.
C'est là qu'on en est aujourd'hui.
Réponse dans quelques minutes. Merci beaucoup, Philippe Bouilloux. L'exercice était difficile. Bravo. Après cet exposé de la puissance publique, je voudrais maintenant me tourner vers vous, Bertrand Collomb. Je rappelle que vous êtes président d'honneur et administrateur de la Farge. Je vous passe le micro parce que, quand même, on a l'impression qu'on a beaucoup reproché au fil des années à nos différents gouvernements de ne pas oser les réformes, de ne pas avoir le courage de réformer. Moi, je voudrais que, d'abord, vous nous expliquiez peut-être un petit peu quelles leçons l'État peut tirer des entreprises dans la façon de conduire le changement. Et puis, comment peut-être aussi mobiliser des nouveaux leviers de croissance, et je ne peux pas m'empêcher, à la croissance verte, notamment, sur lequel vous êtes à la pointe.
Bon, je suis bien d'accord que tout a été dit sur ce qu'il fallait faire, et qu'après la tentative de solution au problème de chômage par le partage du travail qui a misérablement échoué, on en est à une série de rapports qui disent à peu près tous la même chose. Et que la question, c'est comment faire. Donc, méthode de la réforme. Mais je voudrais peut-être ajouter quelques mots ensuite sur l'incidence de la crise financière et économique, parce qu'il y a des gens qui pensent que la crise financière change les cartes, et c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on peut en penser. Alors, les chefs d'entreprise, ils ont été frustrés pendant des années, notamment pendant le règne du président de la République, d'entendre les hommes politiques dire que la France était une société fragile, que les Français n'acceptaient pas les réformes, parce que l'expérience des chefs d'entreprise, c'était qu'à l'intérieur de l'entreprise, les mêmes Français, placés dans des situations difficiles, arrivaient à comprendre très bien les enjeux et à accepter des efforts considérables. Pourquoi, dans quelles conditions acceptaient-ils des efforts considérables? Alors, par rapport à ça, les milieux politiques, au contraire, tendaient à développer une campagne électorale, à afficher le comportement inverse en disant « je vais dire toutes les choses qu'il faut faire, y compris les choses difficiles ». Et bon, il a été élu, et puis ensuite, depuis, il essaye de le faire. Alors, avec une mise en œuvre qui est à un degré perturbé de temps en temps par les événements politiques, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que l'expérience de ces dernières années montre qu'effectivement, avec des objectifs clairs, mais aussi avec une mise en œuvre intelligente, on n'est pas obligé d'être stupide quand on met des réformes en place, comme certains gouvernements précédents. On n'est pas obligé de forcément agiter le chiffon rouge ou de forcément mettre en cause de la façon la plus provocante les intérêts les plus difficiles. Donc, mais par contre, il ne faut pas changer ses objectifs aux moindres réactions de la société française, ou quand vos taux de popularité baissent. Alors Dieu sait que le taux de popularité du président actuel ont évolué, en baisse, puis maintenant apparemment un petit peu en hausse. J'ai l'impression, si on prend l'exemple des 35 heures, ou si on prend un certain nombre d'exemples, qu'il y a eu un certain nombre d'actions dont chacune, effectivement, ne remplissait pas la totalité de l'objectif de réforme, avec lequel certains, bien entendu, n'étaient pas d'accord et continuent à ne pas être d'accord, mais que les choses se sont mises en place. Alors, le problème qu'on a et qui reste très difficile, c'est le problème de la gestion du temps. D'abord, le temps qu'il faut pour faire la réforme, et si je prends par exemple une réforme comme ça, au hasard, si j'ose dire, la fusion de la comptabilité et des impôts au ministère de l'économie et des finances, c'est un truc qui a demandé énormément de temps pour arriver finalement, semble-t-il, à être mis en œuvre. Et encore, je ne suis pas un insider là-dessus, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc il faut du temps pour faire la réforme. Et le temps, le politique n'en a jamais. Et il faut encore plus de temps pour avoir les conséquences. Parce que l'idée qu'on libère, par exemple, la possibilité d'augmentation du travail, il est très évident que ça ne peut pas avoir d'effet immédiat. Et en particulier, ça ne peut pas avoir d'effet immédiat partout dans une conjoncture où il n'y a pas forcément une demande de travail supplémentaire. Donc les réformes structurelles, ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour être efficace. La France s'est enfoncée progressivement dans la morosité sur 10 à 20 ans. Et l'Angleterre est ressortie sur la même durée. Je me rappelle qu'à ma génération, je me rappelle des jeunes Anglais qui m'expliquaient qu'ils ne voulaient pas travailler en Angleterre. Je sais que mes enfants, à la génération de mes enfants, c'était l'inverse, c'était les jeunes Français qui ne voulaient plus travailler en France. Bon, ces mouvements-là, ils prennent du temps et malheureusement, je vois bien que les médias, quand il y a une mesure, 6 mois après, et encore, 6 mois pour eux c'est déjà long, ils vont au résultat et disent est-ce que ça a marché? Bon. Et puis enfin, il y a les perturbations conjoncturelles. Et actuellement, nous sommes dans une perturbation majeure. Donc la question c'est, est-ce que les crises actuelles, la crise financière, la crise économique, changent les objectifs de la réforme structurelle? Personnellement, je crois que non. Parce que l'objectif fondamental, c'est de rétablir la compétitivité de l'économie française et que cet objectif, il ne change pas. La crise financière, elle montre que la non-régulation et l'excès de complexité d'endettement de la sphère financière a introduit des volatilités considérables. On s'est quand même payé 7 crises financières en 20 ans. Bizarrement, d'ailleurs, c'est au centenaire de Harvard que j'ai entendu ça déclaré fortement par un Américain démocrate quand même, mais qui ne nous avait pas tellement habitués à se plaindre de ce genre de situation. mais elle n'entraîne pas la remise en cause de l'ouverture économique. J'ai cru comprendre que la première table ronde l'a bien indiqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer, dans le meilleur des cas, un système financier un peu plus régulé, un peu plus managé peut-être. On a parlé d'un Bretton Woods 2, Bretton Woods, il y a les taux de change. Est-ce que dans le domaine des taux de change et des taux d'intérêt, on peut imaginer, alors là, je n'étant pas économiste, je ne me hasarderai pas ni à faire de prévision, ni à imaginer un système, mais est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Ça changera de toute façon pas les données essentielles de compétitivité. Dans un monde idéal, dans un monde ouvert, libéral, idéal, les fluctuations en dollars-euros seraient peut-être un peu moins erratiques et ça perturberait un petit peu moins les activités d'Airbus, ou la sous-évaluation du yuan serait peut-être moins forte et donc la compétition entre la Chine et nos pays serait peut-être un peu moins difficile, mais ça n'empêcherait pas que les coûts chinois resteraient pour l'essentiel plus bas que les coûts français. Alors, il y a peut-être un changement qui peut s'introduire, je vais peut-être vous surprendre en vous disant, sur les problèmes d'inégalité. Parce que finalement, les problèmes d'inégalité sont un des graves problèmes d'acceptation par notre société des phénomènes de mondialisation. Dans les 20 dernières années, on a eu un accroissement des inégalités. Dans cette même centenaire de Harvard, on disait, c'était Larry Summers, qui sera peut-être secrétaire de la trésorerie d'Obama, j'en sais rien, qui disait qu'il y avait 600 milliards de dollars qui avaient été transférés de 80% d'Américains les moins riches au pourcent des Américains les plus riches. Et ce qu'on sait, c'est que le pourcent des Américains les plus riches possède actuellement possédait ou recevait 25% du revenu, ce qui était à peu près le niveau des années 1920-1930. Bon, et ce qui était, alors qu'entre-temps, en 60-70, c'était de l'ordre de 10, quoi, plutôt 10%. Bon, alors, en Europe et en France, c'est... Bon, aux États-Unis, les gens acceptaient encore plus ou moins, donc ça, on n'en parlait pas, on en parle maintenant, mais on n'en parlait pas tellement aux États-Unis. Mais en Europe, c'est clair, et en France en particulier, c'est clair que le sentiment d'inégalité est moins bien accepté. Mais on se trouvait dans une situation où un pays qui essayait d'avoir une politique particulière sur les inégalités n'y arrivait pas parce que tout simplement la matière inégale s'échappait. Donc on sait très bien que notre fiscalité restait beaucoup plus redistributrice que les autres. Faisait fuir les gens et qu'on a été obligé de revenir en arrière. Alors, si les États-Unis bougent sur ce point, et s'il y a une espèce de consensus international plus ou moins hard pour mettre un peu plus sous contrôle les paradis fiscaux ou ne pas autoriser les gens légitimes à aller dans les paradis fiscaux, ce qui revient au même, on peut éventuellement retrouver une appréciation commune un peu plus raisonnable des inégalités tolérables, des niveaux de fiscalité tolérables, et à ce moment-là, ça serait un élément d'acceptation des enjeux de la mondialisation et donc d'acceptation plus facile des réformes. Parce que c'est clair que le sentiment d'inégalité joue contre l'acceptation par la société française des réformes. Alors on a même un risque qu'on revienne à l'inverse, que le balancier revienne tellement loin qu'on ait des politiques de redistribution. Si on revient à des impôts marginaux de 80 ou 90% comme en Suède autrefois, il est clair qu'on tuera de nouveau la création de richesses d'une façon ou d'une autre. Bon, alors, c'est les changements donc, que la crise financière ou économique peut apporter. Il me semble donc assez limité et il ne change pas, me semble-t-il, les trois objectifs de modernisation et de réforme qui ont été mentionnés. Poids des dépenses publiques, flexibilité des conditions de travail et investissement sur recherche, enseignement, innovation. Alors un dernier mot, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est vrai que puisqu'on a une crise, puisqu'on a une récession, et que, alors les économistes nous disent, c'est pas sûr qu'il faille faire quelque chose. Bon, je pense que les gouvernements qui décident de rien faire, ils n'auraient quand même pas une très bonne position. Et si faire quelque chose, ça donne une situation qui est à peu près la même que rien faire, il vaut mieux faire quelque chose. Parce que je pense que l'action est préférable à l'inaction. Ce qui serait dangereux, c'est si faire quelque chose aboutissait à une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des choses qui, à court terme, soit positive, mais qui surtout nous inscrive dans une perspective de long terme. Or, le long terme, le changement majeur qu'il y a, c'est l'histoire de la croissance durable. L'énergie, l'environnement, on sait qu'on est entré dans un monde différent, on ne sait pas très bien comment passer du monde actuel au monde futur. Alors essayons d'en profiter, puisqu'il y a une nécessité, ou s'il y a une nécessité de soutien et de relance, essayons de diriger ce soutien, ce relance, vers des investissements qui préparent le futur. Alors c'est pas tellement facile. Il y a des cas où ça peut très bien se faire, c'est le logement. On peut investir en logement, en infrastructure, et on peut l'investir en logement économe en énergie, parce que les technologies existent. On peut investir en infrastructure également. On peut sans doute investir en voiture, mais là, il n'est pas sûr que les fabricants qu'on veut aider soient ceux qui peuvent fabriquer les nouvelles voitures. Et il n'est pas sûr que les technologies soient totalement prêtes. Et si l'horizon de la relance est 6 mois, 1 an, c'est probablement assez difficile. Mais quand même, on peut, en matière de dépenses de recherche, de dépenses de développement, etc., faire des choses qui préparent, même si elles ne les réalisent pas complètement, l'avenir. Voilà. Donc, on peut éventuellement gagner quelques années de développement vers l'économie qu'on pressentait de toute façon, en utilisant la crise en quelque sorte. Alors évidemment, tout ça n'a de sens, ne peut se faire que s'il y a une coordination internationale, car si chacun travaille pour soi, alors ça ne sera peut-être pas le protectionnisme des années 29, parce que je crois qu'on l'évitera, mais on n'évitera pas les distorsions qui feront que, en tout cas les entreprises, seront prises dans une situation un peu chaotique et que ça ne sera pas très bon pour elles. Donc il faut que tout ça se fasse dans une coordination internationale. Est-ce que le G20 l'annonce? Moi je suis plutôt optimiste, mais enfin on peut en discuter.
Merci beaucoup Bertrand Collomb. Moi je retiens 3 choses de ce que vous avez dit. Un, dans la tempête, il faut essayer de garder le cap. 2, il faut essayer de la période au cours de laquelle finalement les méthodes, les réformes tardent un petit peu à produire leurs effets, essayer de garder la confiance des gens qu'on accompagne dans les réformes. Et puis la super nouvelle de la journée, c'est que plus on va en baver dans la crise actuelle, plus on a des chances que ça aille mieux après, grâce aux réformes qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors Gilles Berset, on voit bien qu'on tourne autour de cette idée de comment on fait pour mettre les mains dans le cambouis, pour justement que le moment entre le moment où on décide d'une réforme et où on la met en œuvre soit acceptable finalement pour tout le monde et que tout le monde l'accepte. Et donc vous avez évoqué cette question un petit peu tout à l'heure du dialogue social. Vous pouvez l'approfondir maintenant et ajouter d'autres commentaires.
Merci. Dans ce premier tour de table, je vais être assez bref pour évoquer en 4 points des aspects méthodologiques dans la mise en œuvre des réformes dans le domaine du marché du travail. Et puis, il est difficile de ne pas parler du contexte de crise économique actuelle. Donc, dans 2 derniers points, j'aborderai ce contexte en évoquant un risque peut-être et une inquiétude. Alors, d'abord, sur les méthodes de mise en œuvre de réformes sur le marché du travail, je m'inscris assez dans la logique qui a été celle du propos de Philippe tout à l'heure. Et je voudrais simplement ajouter 4 précisions supplémentaires. C'est que, premièrement, il est utile de rechercher la plus grande cohérence dans l'intervention publique et dans ses différentes façons d'intervenir dans un même domaine. Et à cet égard, par exemple, la fusion qui est décidée maintenant, qui va se mettre en œuvre entre l'ANPE et les ACEDIC, est un bel exemple de recherche de cohérence entre une institution qui indemnise et une institution qui travaille sur l'insertion des personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est à rechercher de façon très très forte. Un deuxième point, c'est qu'un autre domaine de cohérence à rechercher, c'est celui des signaux adressés aux agents. Et dans ce domaine, il est clair que la mise en œuvre du RSA, par exemple, qui a été très fortement évoquée sur les derniers mois, est un très bon exemple, puisqu'il est assez logique d'adresser comme signal aux personnes qu'en travaillant plus, elles auront un gain financier à ce supplément de travail, ce qui n'était pas toujours le cas, compte tenu de l'organisation très, très désordonnée, parfois contradictoire, de notre système de transferts sociaux. Il n'en reste pas moins qu'il reste il y a encore beaucoup d'incohérences contre lesquelles du travail reste à faire. Je n'en citerai qu'une qui me tient particulièrement à cœur. Il y a encore déployé en France des politiques qui reviennent très chères, qui consistent à aider, à inciter financièrement des personnes à sortir du marché du travail, alors que simultanément d'autres politiques qui reviennent assez chères aussi visent à les inciter à rentrer sur le marché du travail. Politique qui vise à les inciter financièrement à en sortir, c'est par exemple le complément de libre choix d'activité, l'ancienne APE, allocation parentale d'éducation. On dépense par ça 3 milliards d'euros par an en France, hein, c'est quand même pas négligeable. C'est généralement des femmes, parents de jeunes enfants, dont le retour à l'emploi ensuite est particulièrement difficile. Donc une politique d'inspiration familiale qui est désastreusement, si j'ose dire, contradictoire avec les politiques d'emploi qui, au contraire, visent à inciter des personnes à offrir leur travail sur le marché du travail. Troisième point en termes méthodologiques pour les réformes, la pédagogie est indispensable, la pédagogie est difficile et parfois on observe, quel que soit le gouvernement en place, qu'elle est insuffisante. Je voudrais prendre une illustration qui est dans le débat actuel, c'est la fameuse mesure envisagée, les 70 ans pour faire bref, puisqu'elle a été très fortement évoquée dans la presse. Cette mesure telle qu'elle est évoquée, en tout cas par les pouvoirs publics, donne plus de droits aux salariés sans leur donner plus de devoirs. Il y a une incompréhension total sur cette mesure, et à la limite, on pourrait presque être étonné de ne pas voir, plutôt que des manifestations de salariés, des manifestations de chefs d'entreprise contre cette mesure, puisque cette mesure va les obliger, si j'ose dire, à engager des procédures de licenciement pour éventuellement faire partir d'une entreprise des salariés à partir d'un certain âge. Ça donne plus de droits aux salariés et sans leur donner plus de devoirs. Il y a une incompréhension, ce qui veut dire un défaut de pédagogie absolu par rapport à une mesure de ce type-là. Quatrième point toujours concernant le marché du travail, et je voudrais sur ce point-là illustrer quelque chose qui est particulièrement difficile dans le processus de réforme sur le marché du travail. Dire il y a trop de droits réglementaires en France, il n'y a pas assez de droits conventionnels, pas assez d'ouverture conventionnelle qui permettrait aux acteurs localement dans les entreprises, dans les établissements, de trouver le bon point d'équilibre entre le besoin économique des entreprises et les aspirations collectives ou individuelles des salariés. C'est se heurter à une grosse difficulté. Comment on fait ? On ne peut pas réduire unilatéralement le droit réglementaire en se disant que sur cette réduction du droit réglementaire va émerger davantage de droits conventionnels, parce que la contraction du droit réglementaire, ça signifierait évidemment une réduction du caractère protecteur du droit du travail. Donc il faut trouver une façon d'associer en quelque sorte le développement du droit conventionnel et simultanément une contraction du droit réglementaire. C'est quelque chose sur lequel je travaille personnellement beaucoup avec différents juristes de droit social, et la seule ouverture qui nous paraît constructive en l'espèce, eh bien c'est l'ouverture du droit dérogatoire, c'est-à-dire à des acteurs dans les entreprises et dans les branches. Vous pouvez éventuellement déroger à certaines dispositions du Code du travail à condition que vous proposiez des règles de fonctionnement sur lesquelles vous êtes accordé par des accords qui maintenant sont évidemment, compte tenu de la loi du 20 août, qui seront évidemment des accords majoritaires. Donc c'est un petit peu, j'évoque ceci pour évoquer la difficulté de la réforme dans le domaine du droit du travail. Alors maintenant, dans le contexte de crise économique et crise financière actuelle, je voudrais parler d'un risque et d'une inquiétude. Le risque, évidemment, c'est que le besoin que cette crise financière révèle de davantage, parfois, de régulation, ou en tout cas d'une meilleure régulation de certaines activités, s'accompagne d'une demande de plus de réglementation, en tout cas d'une difficulté à rechercher plus de flexibilité sur le marché des biens du travail. Et là, il y a beaucoup de pédagogie à faire pour dire que la déréglementation qui est toujours à rechercher, déréglementation au sens plus de concurrence, moins de barrières à l'entrée, et ce moins de barrières à l'entrée, évidemment, c'est de la baisse des prix, c'est du pouvoir d'achat, c'est du développement économique. Cette déréglementation peut s'accompagner de plus de régulation et d'une meilleure régulation, surtout, bien évidemment, dans des activités dans lesquelles des mauvais choix ou des mauvaises orientations ont des externalités très fortes pour l'ensemble de l'activité économique et pour l'ensemble de la société. Et puis, l'inquiétude, pour conclure, c'est que dans la situation actuelle, il y a beaucoup d'appels à une intervention publique pour soutenir la demande. Alors je ne vais pas évidemment évoquer ou intervenir sur le bien fondé d'une intervention publique pour soutenir ou ne pas soutenir la demande. Il y a des bons arguments d'ailleurs dans un sens et dans l'autre, mais compte tenu de certaines appartenances professionnelles, je m'interdirai d'intervenir sur ce terrain-là. Je voudrais simplement évoquer une inquiétude. Si jamais il y a intervention publique, et là je rejoins complètement l'intervention précédente, il faut que cette intervention publique, pour soutenir la demande, s'inscrive malgré tout en cohérence totale avec la recherche d'une augmentation de notre croissance potentielle. Et cette cohérence est impérative. Donc, quitte à soutenir la demande, si jamais c'était le choix qui était fait par les pouvoirs publics, tant en France qu'en Europe, eh bien, il faudrait que ce choix s'inscrive dans cette cohérence avec des dépenses publiques qui permettent évidemment un retour sur dépenses, un retour sur investissement, qui soit des investissements. Il y a un tas d'exemples qui peuvent être donnés, certains ont été donnés, il y en a d'autres qui pourraient donner. Vous savez que la situation, par exemple, des universités françaises, je vous parle sur ce terrain-là parce que beaucoup d'entre vous sont enseignants, la situation des universités françaises est catastrophique, la situation même immobilière parfois. Je suis enseignant à l'université de Marseille, certaines universités, j'hésite pas à employer ce mot, sont parfois, d'un point de vue même purement immobilier, de véritables poubelles. Et bien là, il y a des dépenses qui peuvent être constructives en termes de retour sur investissement, et tant qu'à faire, si on doit soutenir la demande, ces dépenses-là seraient utiles.
Merci beaucoup Gilbert Sette. Et donc, Gabi Bonan, je vous rappelle que vous êtes secrétaire nationale de la CFDT, c'est à vous. Alors, bon, votre point de vue et puis vos réactions un petit peu autour de ce rôle crucial, finalement, dans l'art de la réforme, de mener un bon dialogue social.
Merci. Oui, alors peut-être avant de répondre à la question sur les méthodes de la réforme et comment réformer, je voudrais m'arrêter d'abord de quoi on parle quand on parle de réforme. Parce qu'on parle toujours, il faut réformer, mais de quoi on parle exactement? Pourquoi il faut réformer et comment on peut réformer? Alors, la réforme, de quoi on parle? Bien souvent, il faut appeler les choses par leur nom. On a besoin de réformer notre système, d'organisation économique et sociale, que l'on peut, je vais faire un peu rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais que l'on peut résumer sous le vocable sur lequel a beaucoup écrit Pierre Rosanvallon, l'État-providence. Donc il faut, on a effectivement à réformer nos systèmes d'organisation économique et sociale qui se sont créés dans le cadre d'une économie fermée, dans le cadre des États-nations. Et c'est dans ce cadre-là que s'est située la construction de nos systèmes. Alors pourquoi réformer? Parce que autant nos systèmes se sont créés dans des espaces superposables, j'allais dire l'espace du développement économique, l'espace de la construction du social et l'espace de la construction du politique étaient des espaces qui étaient superposables. De ce point de vue-là, c'était relativement bien équilibré. Et puis, alors je fais vite, mais sous l'effet des évolutions technologiques et sous l'effet de la mondialisation, ces espaces se sont déconnectés. Le développement économique a dépassé le cadre des États-nations. Il y a eu l'internationalisation des économies, la mondialisation, et la mondialisation qui n'est pas simplement le fait, enfin qui n'est pas le fait de la financiarisation de l'économie. La mondialisation, elle existe de par elle-même. Donc parce que effectivement, il y avait un certain nombre de besoins auxquels il fallait répondre. Mais dans le même temps, la construction du social et la construction du politique sont restées construits et se sont développés dans le cadre des États-nations. Et donc il y a quelque part des choses qui sont venues déstabiliser nos systèmes. Deuxième élément pourquoi il faut réformer, c'est que bien souvent, les évolutions que l'on a connues dans nos pays européens notamment, les évolutions de la démographie, les évolutions aussi, l'amélioration de la santé, ont changé la nature de nos systèmes. de protection. Enfin, je veux dire que historiquement, si on fait l'histoire de nos protections sociales et de nos garanties, elles ont toutes pour origine au départ, que ce soit la retraite, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit les accidents du travail, elles ont toutes pour origine de créer un droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du travail, en cas de rupture du contrat de travail, pour cause d'accident, pour cause de maladie, pour cause de chômage. C'est comme ça qu'on crée les premières retraites. On crée les premières retraites parce que on veut. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler, qui sont usés, et donc ils ne peuvent plus travailler. Donc on leur donne, on crée une indemnité. Il faut savoir par exemple qu'en 45, si on met même la retraite à 65 ans, c'est parce que la moyenne de durée de vie est de 64. Donc c'est un droit qui est. C'est ça qui est créé. Dans la maladie, par exemple, on crée d'abord des indemnités journalières. L'indemnité journalière représente 57% du budget de la Sécu en 45, jusqu'en 50, jusqu'à la fin des années 50. Aujourd'hui, c'est 6%. Tout le reste, c'est du soin. C'est de la dépense de soins. Ce qui a permis, d'ailleurs, nos systèmes de protection ont permis un formidable développement d'emplois, d'économies, de secteurs d'activité. Ça n'a pas été que des trous, d'ailleurs. Nos systèmes de protection sociale n'a pas été que des trous qu'il faut boucher aujourd'hui. Ça a d'abord été un facteur essentiel du développement économique de l'après-guerre. Sur le chômage, ça a été pareil. Quand on a créé le chômage, la CEDIC...
Gabi, je vous mets en garde, vous avez déjà mangé presque la moitié de votre temps de parole.
Déjà ?
Ah oui. Bon, alors, c'est bien, c'est donc, passionnant de faire de l'histoire.
Oui, bon, mais alors, maintenant mais, comment ?
Allez-y,
alors,
voilà.
Voilà. Mais donc, il faut assister, il faut effectivement, il faut réformer. Parce que on est aujourd'hui, comment on peut le faire ? Parce qu'on est dans deux systèmes. On est dans un système où on a deux positions un peu... qui sont antagonistes. Parce que je crois qu'il faut prendre en compte, le premier aspect pour bien réformer, il faut prendre en compte l'ensemble des intérêts. Et l'ensemble des intérêts en présence. C'est-à-dire que, on ne doit, alors il faut que je fasse vite, alors la financiarisation de l'économie et la crise nous le fait dire, on ne peut pas prendre en compte que l'intérêt de l'actionnaire. Si effectivement on prenait que ça en compte, eh bien... On voit bien où ça nous mène quand on prend ça en compte. Alors, mais, bon, même si je caricature un peu mon propos, mais donc il faut prendre
en compte. C'est très clair.
Bon, très bien. Quand on parle, par exemple, de flexibilité, il faut rendre flexible le marché du travail. Oui, il faut le rendre flexible, mais il n'y a pas de flexibilité sans sécurité. Alors il y a deux tenants, enfin il y a deux oppositions ou deux positions extrêmes. Il y a ceux qui disent que en fait, la flexibilité, l'insécurité, c'est ce qui est le moteur de la prise de risque. Plus les gens sont insécurisés, à la limite, ils vont prendre des risques, parce que les risques vont leur permettre de sortir de cette insécurité. D'ailleurs, ceux qui le prônent, bien souvent, se protègent eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'il fallait beaucoup prendre de risques, mais qui se sont beaucoup protégés pour les prendre. Mais qu'il fallait prendre des risques à d'autres. Et puis, à l'autre bout, il y a ceux qui disent il faut défendre le statu quo. On a créé des systèmes, il faut s'y accrocher. En oubliant de voir, ou en feignant de ne pas voir, que ces systèmes, aujourd'hui, ne protègent plus tout le monde. Ils ne protègent plus tout le monde, ils protègent les inclus. Les inclus, c'est ceux qui travaillent. Et il y a 6 à 7 millions d'individus qui supportent tout le poids de ces tensions économiques internationales par la flexibilité. Alors c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les immigrés, c'est les peu qualifiés, c'est les seniors. On voit bien que nos systèmes ne répondent plus. Un exemple, l'assurance chômage, quand elle a été créée, tous les chômeurs étaient indemnisés par l'UNEDIC. Aujourd'hui, seulement 48% sont indemnisés par l'UNEDIC. Le système a changé. Le risque à courir n'est plus le même. Donc il faut qu'on prenne les moyens pour couvrir d'autres risques. Alors comment on peut le faire ? Eh bien il faut, j'ai dit, pour prendre en compte l'ensemble de ces intérêts, il faut progresser dans la construction d'espaces de dialogue social. Et il y a des éléments qui sont intéressants dans la dernière période, qui sont vécus. La loi du 31 janvier 2007, elle vous dit peut-être rien, c'est la loi de modernisation du dialogue social, eh bien elle crée l'obligation pour le gouvernement de saisir les partenaires sociaux, les organisations syndicales et patronales,
sur des sujets qui ont trait à tout ce qui est le travail. C'est comme ça, par exemple, que nous avons été saisis sur la question de la modernisation du marché du travail, où nous avons conclu un accord le 11 janvier 2008, un an après. C'est comme ça que nous avons été saisis des questions de la représentativité, où CFDT, CGT, MEDEF, CGPME ont signé un accord et qui a été retraduit par la loi sur la réforme de la représentativité pour donner plus de poids aux organes syndicaux, parce que la deuxième condition, c'est effectivement progresser dans la construction des espaces de dialogue social. Ça veut dire aussi structurer, renforcer les acteurs du dialogue social, de façon à ce que ce soit des acteurs qui représentent les intérêts des salariés, des employeurs, et etc., des consommateurs, de différentes parties prenantes. Et j'allais dire que, de ce point de vue-là, il me semble que la crise que l'on vit est une opportunité pour accélérer dans cette dynamique, parce que, je le caricaturais tout à l'heure, on peut dire quand même que la financiarisation de l'économie a fait que le tout actionnaire, la gouvernance, y compris les normes comptables, qui ont tout misé sur quelque part des analyses de l'entreprise à court terme, évaluer les actifs tous les trimestres pour une entreprise, je veux dire que ce n'est pas forcément la bonne solution pour avoir une politique à long terme. Il me reste 2 minutes, c'est très bien. Ça peut nous donner une opportunité, parce qu'aujourd'hui, et moi je le sens bien comme syndicaliste, il y a des choses qu'on disait avant, bon non, on tombait à côté de la plaque. Il y avait comme ça des espèces de vérités qui n'étaient plus discutables. C'était pas discutable. Et maintenant, ça devient discutable. C'est-à-dire que il y a des certitudes aujourd'hui qui sont cassées, des dons qui sont cassés. Il y a encore 6 mois, on nous disait que le fonds de réserve des retraites, qui est un investissement à long terme, puisqu'il a pour objet d'amortir le choc démographique pour nos retraites, eh bien, il fallait le casser, parce qu'il fallait augmenter la retraite. Et ce qui est important, bien sûr, il faut augmenter les retraites, il faut augmenter aussi le minimum vieillesse, mais on voulait le casser pour ça. Oui, et on voulait le casser pour réduire le déficit aussi. Et puis aujourd'hui, alors c'était un dogme ça, hein, court terme, court terme, court terme. Endettez-vous pour consommer, et court terme. Aujourd'hui, c'est long terme, long terme, long terme. Et on crée un fonds souverain où on dit c'est terminé. Les investissements à court terme, c'est terminé. Maintenant, c'est du long terme. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, alors, à nous maintenant d'être vigilants sur ces changements. Ces changements, c'est des changements de certitude, des changements de dogme. Donc, pour nous, ça veut dire que ce qui était une certitude hier, qui n'est plus une certitude aujourd'hui, mais la certitude d'aujourd'hui, elle n'est pas plus fiable. Donc, il faut se méfier. Donc, ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour que les différentes parties prenantes puissent avoir effectivement mettre un pied dans la porte. Et je terminerai que sur cet aspect-là, c'est comment vous avez dit sur les 35 heures. Une petite provocation, mais heureusement aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui n'ont pas démantelé les 35 heures. Parce que on fait actuellement, puis c'est la campagne Prud'homme, un certain nombre de visites d'entreprises. Mais avec la récession qu'on a, que font les entreprises à la fin d'année? De nombreuses entreprises n'ont pas mis leurs gens en chômage partiel. Ils ont dit aux salariés, prenez vos RTT. Mais ceux qui en ont, ceux qui ont monétarisé la RTT, eh ben ils payent deux fois. Je veux dire que ceux qui ont mis en cause les 35 heures vont payer deux fois. Ils ont payé les RTT en monnaie et aujourd'hui, ils sont obligés de payer du chômage partiel. C'est pas très efficace. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un élément important. Si on ne veut pas payer la crise deux fois, il faut qu'on prenne en compte ce que j'appelle la partie prenante des salariés de l'entreprise. Il faut qu'on arrive à maintenir les compétences de façon. Et donc, il faut peut-être des politiques budgétaires là-dessus, ou des moyens qui permettent de ne pas payer la crise deux fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, les entreprises se séparent de leurs salariés, et de leurs compétences. Demain, quand la machine repartira, on pourra plus le faire. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans la région à visiter une entreprise, rencontrer les gens dans une entreprise à Renault Trucks. Eh bien, les gens nous disent, il ne faut pas ce qu'on a vécu en 93. Voilà. Donc, je termine. Mais je dis simplement que là, c'est des opportunités pour réformer, pour prendre en compte les intérêts des uns et des autres dans des espaces de dialogue social qui sont construits.
Non, mais je note, bravo d'abord, pardon. Et je note que vous êtes le quatrième à me dire « vive la crise », donc je ne pensais pas qu'on repartirait avec une telle dose d'optimisme. Alors, Jacques Delplat, vous êtes économiste au CAE, membre de la commission Attali. Alors, vous avez, j'allais dire, presque inventé, en fait, une idée originale pour justement réussir à réformer, qui consistait un petit peu à racheter, finalement, les droits que certains refusent d'abandonner pour pouvoir réussir les réformes. Alors, dites-nous quelques mots sur cette méthode. Dites-nous aussi comment vos idées ont été reçues. Et puis, vous ne vous priverez pas pour nous donner un petit peu toutes vos réactions sur ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Tout ça en 10 minutes, comme les autres. Merci.
Merci beaucoup. Moi, je vais essayer de vous réveiller un peu. Hein. Vendredi à 5 heures et tout. Et puis, on m'a demandé d'être un peu le poil à gratter de la table. Alors, c'est absolument fantastique parce que il y a un consensus des élites, on va dire droite, gauche, syndicale et patronale, modérée, non extrémiste, sur ce qu'il faut faire. Et pourtant, rien ne se fait. Vous avez vu Philippe Aguillon tout à l'heure à la vidéo expliquer grosso modo que Sarkozy faisait pas assez de réformes dans la libéralisation du marché des biens, de l'emploi et autres. Et le même Philippe Aguillon est officiellement conseiller économique de Ségolène Royal. Donc, on a aujourd'hui, on va dire, si on enlève nos créationnistes à nous, qui sont la gauche radicale et la droite, l'extrême droite lepéniste, on a 70% de la représentation politique, des suffrages qui sont, on va dire, du Parti socialiste au centriste et à l'UMP, pour des réformes sur lesquelles, qui sont le programme commun, non pas de 72, mais de la social-démocratie centre-droit européenne, qui est ce qu'ont fait tous les pays, en général plutôt de gauche, mais entre le centre-gauche et le centre-droit en Europe, tous les pays qui ont fait des réformes, ils ont fait ça. Alors on sait qu'il faut le faire. Tous les gouvernements en France qui l'ont pas fait se sont fait latter. Car ça fait depuis 78 que tous les gouvernements, sauf aux dernières élections, ont pris des baffes à chaque fois, et pourtant ils n'ont rien fait. Alors est-ce qu'ils sont débiles? Non. Est-ce qu'ils savent rien faire? Non plus. La réponse, elle est ailleurs, c'est qu'en fait, il y a une très forte asymétrie dans les réformes. On sait tous que, alors on peut être plus social-démocrate ou plus libéral, mais c'est pas vraiment ça le sujet. Toutes les réformes qu'on doit faire, elles ont deux caractéristiques. Un, les coûts sont tout de suite et les gains sont à long terme. Deuxièmement, les coûts sont concentrés sur des petites franges de la population qui, en général, savent très bien s'exprimer. Et les gains sont pour l'ensemble des gens qui ne s'en rendent pas compte. Quand on a ouvert le marché des télécoms, je suis sûr que pratiquement tous les gens dans cette salle ont un téléphone portable. Rappelez-vous ce que disaient à la fois les patrons et les syndicats de la direction générale des postes et télécoms, l'ancien France Télécom, quand il a fallu ouvrir tout ça. Ils étaient tous contre. Ben nous, au coin de nous, est allé dans la rue dire « je veux libéraliser le marché des télécoms pour avoir mon téléphone portable de 3e génération dans 10 ans. » Parce que je ne savais pas que ça existait. Et parce qu'on a intérêt d'être... Donc c'est un truc classique, que les gains soient à long terme, les coûts soient à court terme. Les gains sont sur beaucoup de gens petitement, et les coûts sont sur peu de gens beaucoup. Comment on règle ça? Alors si on sort l'idée, c'est ce qu'a dit Bertrand Collomb, c'est-à-dire que... Les petites réformes, la petite semaine, je vous la fais sans vous le dire au mois d'août, les gens sont pas cons, il y en a qui disent non. Donc je suis tout à fait d'accord avec Bertrand Collomb, ça a plus d'avenir. Donc il y a trois solutions. La première solution, c'est que j'y annonce mon programme, et ceux qui sont pas d'accord, la petite minorité des gens qui vont perdre, je prends mon char d'assaut, j'avance, et s'ils sont sur la route, tant pis. C'est ce qu'a fait Maggie Thatcher, c'est la grande grève contre les mineurs. on part faire l'histoire, outre que ce n'est pas transposable en France, ça a des coûts sociaux et économiques aussi importants sur le long terme. La deuxième option, c'est on est tous grands, blonds, avec les yeux bleus, et on parle suédois ou danois, et ça fait 8 siècles qu'on se parle entre nous, parce que ça a commencé, le dialogue social suédois, ça commence au 12e siècle. Ça fait 8 siècles qu'on est entre nous, qu'on fait du consensus et on sait faire. Voilà. Ben, nous, on n'a pas toutes ces propriétés, je ne parle pas suédois, vous non plus. Donc, la troisième solution, c'est l'idée de mon livre. C'est-à-dire, il y a un concept super simple en économie que tous les étudiants en économie connaissent, qui est le concept d'optimum Pareto. Il y a bien un endroit où on fait un échange bilatéral. Vous aimez les fraises et j'aime les groseilles, et on fait un échange fraises-groseilles, et chacun a ça. Et ben, voilà, c'est ça l'idée qu'on a appliquée pour notre livre avec Charles Diploz. On s'est dit, il y a des gains massifs aux réformes, tout le monde le reconnaît, qu'elles soient social-démocrates ou libérales. Il y a des gains massifs à long terme, donc notre idée, c'est qu'on va capturer une partie de ces gains futurs, les transposer aujourd'hui pour compenser les gens qui vont perdre. Typiquement, c'était l'histoire des taxis. Les taxis ont acheté une plaque, un droit à exercer qui vaut 150 à 300 000 euros.